Joseph Claude.
Wadja, bonjour Alexis.
En deuxième partie d'émission, on va parler avec l'artiste, auteur, compositrice, interprète Anaknid.
Oui, j'ai bien hâte, on va parler de son dernier album qui vient de paraître.
Mais premièrement, on reçoit une grande dame. Moi, je sais pas comment c'était quand il y avait la résistance des Kanungaga en 1990-91. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, je me déguisais en petit warrior parce que mes parents m'expliquaient que c'était un acte de résistance. Puis j'étais fier de voir ça, bien que c'était pas, je vivais dans un milieu non autochtone. On a ici la porte-parole avec nous des résistants de cet épisode-là, une femme aussi qui a été présidente des femmes autochtones, une militante des droits des peuples autochtones, Hélène Gabriel. Quoi?
Salut Alexis, Sophie Claude, je suis honorée de parler avec vous aujourd'hui.
Ben, c'est Niawan, c'est vraiment à nous que revient l'honneur de pouvoir t'avoir à notre émission. Comme j'expliquais, on a pu te voir dans la sphère publique en commençant. En tout cas, moi, je me rappelle de quand j'étais petit, de t'avoir vu aux nouvelles. Et par la suite, dans 271 ans de résistance d'Alanis Obomsawin, qui était là à l'intérieur avec vous, on a une place prédominante. J'ai des souvenirs aussi de quand j'étais plus petit, quand ma mère travaillait à Femmes autochtones, t'étais présidente. Donc, ça fait longtemps que tu défends les droits des Kanungaga puis des peuples autochtones en général.
Oui, c'est plus de. Je pense que c'est. Je suis en train de définir 34 ans dans mes travails pour défendre notre droit et pour l'environnement aussi.
Oui.
Et je suis une artiste, mais j'ai pas beaucoup de temps pour faire la peinture. Mais et j'ai fait le documentaire aussi. C'est un nouveau outil dans mon militantisme. Je ne sais pas si c'est
oui.
Le mot en français.
Le militantisme, oui, oui.
Oui, oui.
Donc, c'est un outil pour éduquer les non-autochtones par rapport à nos droits, par rapport à nos situations, c'est ça?
Exactement. Parce que je trouve que c'est si on dépend sur les médias, on peut pas avancer nos enjeux ou défendre nos droits. Donc, je pense que c'est de réclamer le narratif de notre histoire. Donc, c'est très important pour moi de continuer d'être une militante pour le reste de ma vie, parce que je pense que les enjeux, notre lutte ne sont pas réglés demain ou l'année prochaine. C'est toujours une lutte pour les peuples autochtones à travers le monde, partout du Canada aussi.
En 1990, avec la résistance que vous avez faite, c'était pour le territoire. On voulait prendre le territoire de Kanungaga, de Ganesdake, pour en faire un terrain de golf. Aujourd'hui, cette résistance-là, cette lutte-là, comment est-ce que il y a encore des enjeux dans ta communauté? Puis sinon, quels sont les principaux enjeux que on a encore à faire face? Est-ce que c'est seulement territoriaux, nos femmes, nos sœurs et nos filles disparues, le droit de vivre dans notre langue? Est-ce que tu prioriserais certains enjeux ou c'est un tout, selon toi?
C'est toujours tous les enjeux, parce qu'on ne peut pas faire une seule chose dans le jeu, parce que pour moi, c'est importante parce que ça affectait notre qualité de vie. À ce moment, la lutte reste quand même. C'est toujours ils ont volé notre terre à ce moment. Il y a des développements. mais aussi les divisions dedans la communauté.
OK.
C'est vraiment pire. Une lutte contre, je ne sais pas le mot correctement d'utiliser, mais des mots qui sont très assimilés, qui, et pas du tout, pas tout le monde est comme ça, mais qui travaillent ensemble avec les crimes organisés. Et ça, c'est un autre niveau qu'on vit pour centaines d'années. Et moi, je trouve que le gouvernement nous a abandonnés. Ils nous disent qu'il n'y a rien qui peut faire. Et moi, je trouve que ça manque la moralité, ça manque la loi aussi. Notre sécurité, c'est pas solide. Et c'est pour ça que je ne recognisais pas la communauté à ce moment. C'est pas la communauté quand j'ai grandi, sûr. Et c'est triste pour moi, c'est frustrant.
Donc, le fait que finalement, c'est pas tout le monde, c'est pas une pensée unanime par rapport à comment le territoire et les ressources devraient être utilisées. Et vous trouvez que vous êtes laissé face à vous-même parce qu'il n'y a pas de support en termes de justice pour faire renforcer la loi? Ou est-ce que c'est à cause que les lois sur la réserve sont différentes puis c'est difficile à faire appliquer?
Peut-être les deux. Je sais que la loi de colonisateur, ils ont appliqué quand ils veulent. Donc, s'il y a des ressources, des développements, c'est toujours leur juridiction, leur autorité. Mais les problèmes qui sont la racine de nos problèmes, ça vient des impacts de colonisation. Et il y a toujours des personnes qui ne respectent pas leur langue, qui ne respectent pas la terre, qui ne respectent le peuple, notre tradition et notre histoire. C'est une lutte dans la communauté, comme j'ai dit. Et quand il y a des crimes qui étaient commis,
Je vois qu'ils sont
comme
commis, ouais.
Canada, oui, sont commis. Le gouvernement et les policiers disent, il n'y a rien qu'on a pu faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ouais.
C'est nous c'est laisser à nous de défendre notre droit physiquement, spirituellement, mentalement. Et moi, je trouve que c'est vraiment sadistique. Je trouve que le gouvernement sont très méfiant. J'ai aucun mot pour dire que la situation qu'on trouve dans Daganasadag, c'est pas dans notre valeur. Et le gouvernement toujours a fait le diviser et de conquer,
C'est ce
divide
que.
and conquer. C'est toujours enacté ici à
Ouais,
Ganassadag. C'est pour ça que notre terre sont plus petits quand j'ai grandi.
le territoire de Kanestaké a réduit comme peau de chagrin. Il y a même, je pense, un livre qui a été écrit pour décrire comment vous êtes fait avoir par les curés, par l'État, qui décrit bien tout le processus, bien qu'il y ait eu de la résistance pour que la municipalité d'Oka puisse avoir le territoire. Puis aujourd'hui, en plus, qu'est-ce que je comprends de tes propos, Hélène, c'est qu'on est un peu dans une zone de non-droit où le gouvernement se satisfait de laisser le crime organisé avoir une partie du pouvoir et ne donne pas du pouvoir à la communauté, aux membres de la communauté qui auraient légitimement le droit de l'avoir.
Exactement. C'est comme c'est notre faute qu'on était comme ça. Que c'est notre faute, que la violence existe dans notre communauté comme c'est normal. Donc, le gouvernement n'a jamais Faites la responsabilité, quoi qu'ils fassent dans notre famille, tous les problèmes qui commencent avec eux. Et je pensais en 2024, ça changerait, mais je pense que ça continue parce qu'il n'y a aucun effort par le gouvernement, par les policiers, d'arrêter les crimes organisés. Il n'y a pas aucune will, il n'y a aucune
Volonté.
volonté par le gouvernement de changer la situation vers le volet de notre terre. C'est toujours notre faute. Et quand on résiste, c'est nous qui sommes les criminels. C'est nous, c'est notre faute. J'essayais de trouver tous les outils qui sont à notre sont disponibles, comme la loi, comme les droits humains internationaux. Mais le Canada sont bonnes déguiser leurs crimes contre nous. C'est toujours on fait des engagements avec les peuples autochtones. C'est eux qui a décidé ça. Où il y a des rapports dans 2 ans qui s'en viennent et on peut pas dire des choses maintenant, mais le progrès, ça s'en vient. Mais c'est toujours le critère de le gouvernement. C'est pas notre critère, notre besoin.
Puis,
Et je trouve que ça, c'est frustrant pour nous. Parce que toujours, on a besoin d'être paix, en la paix. On a toujours besoin d'être silence pour attendre pour le gouvernement. Et je ne sais pas avec eux, mais pour nous, c'est le Conseil de la banque qui fait les décisions. C'est la seule autorité que le gouvernement a recognisée, mais il ne fait rien. C'est toujours corrompu. Il fait toujours quoi que le gouvernement veuille et pas dans notre besoin. Donc, je trouve qu'il n'y a rien, mais pas rien, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis 90 et en avant. On est toujours lutte pour notre toile.
Puis, dans le fond, depuis 90, ben, c'est sûr qu'en 90, on parlait vraiment du golf en tant que tel, mais depuis ce temps-là, moi, je sais qu'on s'est déjà parlé il y a quelques années, Hélène, on parlait justement du développement domiciliaire qui avait lieu aux abords, où est-ce qui, dans le fond, se trouve à pousser de plus en plus les limites du
Oui.
territoire de Gunnestaugé. Donc, c'est une pression qui est toujours constante. C'est pas, c'est arrivé il y a quelques années, puis maintenant, c'est difficile de vivre sur les terres. Même sur les terres, vous vivez encore de la pression, pour pouvoir préserver le territoire. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. C'est toujours les besoins, les droits de les Québécois ou les développeurs. Il a plus de droits que nous. C'est toujours, je pense que c'est les raisons économiques. Il y a des taxes que les municipalités a gagnées. Il a gagné aussi le province, le gouvernement du Canada. C'est toujours une question d'économique et ont besoin de. On était punis. Je trouve qu'on était punis, notre communauté, pour ouvrir les yeux du monde que le crime de Canada en 90 ont détruit un peu leur réputation internationale. Et je trouve que on a besoin de continuer de lutter. Mais à ce moment dans notre communauté, il n'y a aucune volonté pour ça. C'est toujours juste les chèques de marijuana qui fait une petite économie ici. Les gouvernements sont contents avec ça. Moi, je trouve que c'est l'enfer. C'est l'enfer, une situation qui était créée par le gouvernement du Canada. Mais il ne voulait pas de faire une intervention, d'arrêter ça pour avoir la sécurité de la communauté, pour avoir respecté notre droit humain, l'accès sur notre terre comme le parc national d'Oka ont besoin de donner notre carte indienne. On sommes toujours les Indiens, pas des peuples autochtones sur les lois canadiennes, mais Quand, moi, j'ai fait des questions, je peux poser des questions. Quand est-ce que ça suffit? Comment est-ce qu'on peut avoir le respect pour notre droit humain et d'autodétermination? Je ne sais pas si c'est trop tard pour notre langue ou quoi, mais il y a des personnes qui ont essayé. Mais l'accès sur la terre, comme le land back, le mouvement de land back, c'est juste c'est abstrait. C'est juste quoi qu'on parle, mais on a trouvé pas une situation où on trouvait, il y a des land back. Il y a aucune, c'est toujours les petites réserves qu'on est en habité sur. Il n'y a aucune personne dans le gouvernement du Canada qui sont sympathisés avec nous. C'est toujours la politique, c'est toujours, comme j'ai dit en avant, la raison économique. Et on a besoin d'avoir une voix. On a besoin d'enlever notre droit. Mais ici, dans ma communauté, c'est pas qui passait.
Hélène, on va prendre une petite pause musicale. C'est vraiment des perspectives hyper pertinentes que tu nous rappelles. On va ramener ça aussi au point de vue international avec la situation en Palestine, en revenant avec toi.
Il y a carrément un lien avec le territoire aussi.
Ouais.
À tout de suite, Hélène.
Niawan. De retour avec une grande dame des droits des peuples autochtones. Tu nous parlais justement de dépossession du territoire, de qu'est-ce qui s'est fait avec Canasdage, de la résistance que vous avez, de l'État un petit peu difficile ou même dans la nation. Il y a une certaine économie qui s'est créée avec le commerce de la marijuana, mais c'est pas bien partagé, c'est pas équitable pour tout le monde, à ce que je peux comprendre. On a eu aussi les femmes assassinées disparues, une enquête nationale sur le sujet. On est venu nous dire que la commission Vérité-Réconciliation est venue nous parler de génocide culturel, mais l'enquête nationale sur les femmes assassinées disparues est venue nous parler tout simplement de génocide. Parce que si on se rappelle, le crime de génocide comporte plusieurs aspects, dont celui de prendre des enfants et les amener, dont celui de laisser des populations vivre dans une situation tellement difficile qu'elles ne peuvent pas espérer croître et bien se développer. Parce que quand on parle de génocide, on pense seulement au meurtre, un peu comme avec la Shoah ou avec les Arméniens, mais le crime de génocide comporte plusieurs aspects. L'enquête nationale sur les femmes assassinées disparues est venu nous dire que le génocide se poursuit aujourd'hui parce que le gouvernement n'agit pas. Puis c'est un peu qu'est-ce que tu nous as expliqué dans la première partie de l'entrevue, que le gouvernement laisse aller les choses, n'agit pas pour arrêter certaines situations. Donc, on peut dire que le génocide se poursuit aussi à plusieurs égards. C'est pas juste pour les femmes assassinées disparues.
Oui, si on regarde l'histoire du Canada et l'histoire des peuples autochtones à Turtle Island, je trouve que c'est toujours une attaque contre les familles. Les femmes qui sont assassinées ou disparues, le gouvernement savait pour plusieurs des années. On n'était pas importante. C'est ça, c'est le racisme. Dans un autre niveau. Quand on regarde la situation et je pense que c'est le génocide culturel, c'est pas vraiment le propre mot, comme vous avez dit. C'est le génocide parce que nous sommes des nations qui sont occupées. Nous sommes des nations avec une terre. Nous sommes avec une nation avec les langues, les cultures, les gouvernements. Et quand ils attaquaient ou n'agirent pas sur la situation des femmes qui sont disparues ou assassinées, c'est parce qu'on n'était pas important. C'est le racisme. Le gouvernement du Canada voudrait regarder toujours comment est-ce que ça coûte pour avoir éduqué les policiers, éduquer les juges, éduquer les avocats. C'est toujours une question de les fonds. Et pas une question ou pas adresser les droits humains.
Ouais.
Et je trouve que c'est triste parce que j'étais là en 2004 quand Amnesty International et les femmes autochtones du Canada a donné à la public un rapport quand les sœurs qui sont volées, Stolen Sisters. Nous sommes dans 2024. Les situations sont à la même niveau parce que nous ne sommes pas très importants. Nous sommes marginalisés. Nous sommes, c'est comme les politiciens m'avaient dit, comme Jean Charest, c'est une affaire domestique. Mais c'est pas seulement une affaire domestique. C'est une affaire de, c'est un enjeu qui affectait le racisme. C'est un enjeu qui affectait la sécurité et les qualités de vie de les femmes autochtones et leurs familles. Et ça, c'est une part de la génocide qui était faite contre nous. Et on a besoin de toujours parler sur ça parce que on n'est pas de régler la situation. Ça commence
Oui, mais
tous les jours.
il y avait eu même Stephen Harper un moment donné qui avait commenté que une enquête sur les femmes autochtones disparues assassinées n'était pas très haut dans son radar, en fait, là. C'était
C'était pas
comme ça,
très
ça.
important pour lui.
Non, pas très important. Mais on peut faire clairement un parallèle avec la situation qui se passe en Palestine. On voit des journalistes qui, en ce moment, leurs familles sont en train de disparaître. Les journalistes, les familles des journalistes se font cibler. Les femmes se font cibler. Et là, en ce moment, ce qui se passe en Palestine, c'est le territoire se fait occuper. Hélène, on a vu sur les réseaux sociaux que vous êtes impliquée, vous participez à certaines manifestations. Pourquoi est-ce que c'est important de supporter la cause palestinienne et pourquoi, en tant que femme autochtone, vous supportez la cause palestinienne?
Oui, c'est une bonne question. J'ai entendu la situation de la Palestine en 90. Il y a des Palestiniens qui nous soutiennent. C'est un droit humain et je travaille sur les droits humains plus de 30 ans. Si je veux que notre droit humain soit respecté, que notre voix soit élevée, dans cette lutte contre une grande machine de Canada, moi, j'ai besoin de crier aussi parce qu'on était capable de recogniser quand un autre peuple a subi un génocide. Pour moi, on a besoin de soutien des Palestiniens parce que c'est un droit humain, des situations, leur histoire, il y a des parallèles entre nous et eux. Ils sont déplacés, ils sont attaqués, les femmes ne peuvent pas protéger, et les pères aussi, ne peuvent pas protéger leurs enfants. Il n'y a pas des armes, il n'y a pas des technologies sophistiquées pour défendre leur famille. Je trouve c'est vraiment triste, it's horrific, de regarder dans les médias sociaux qu'est-ce qui se passe. Et pour le Canada ne pas appuyer les Palestiniens, le Canada a dit qu'il y a une grande défendre des droits humains, mais la silence a dit que ça c'est pas vrai. Et je trouve que
Comme à l'époque, on a voulu affamer aussi les résistants de Canisdague, on a voulu affamer les Palestiniens, on affame les Palestiniens pour essayer de les casser. Prochainement, est-ce qu'il y a des manifestations où tu vas participer pour encore aller faire entendre cette réalité-là?
il y a une ce soir pour les journalistes que je parlerai sur. C'est très important pour moi de continuer publiquement dénoncer le génocide qui se passe. En particulier pour les journalistes, je trouve c'est l'insanity.
Oui, c'est vraiment, c'est de la démence, puis c'est une atteinte à la démocratie, on le dit aussi, hein?
Exactement.
Hélène Gabriel.
C'est le rôle le travail de les journalistes de faire qu'est-ce qui se passe dans une journée. Et si l'État d'Israël veut cacher leurs crimes contre l'humanité. Je pense que tout le monde ne voudrait pas ça. Tout le monde lutte contre ça. Donc, c'est très important pour tout le monde. En particulier, je trouve c'est triste et dommage. Il n'y a pas plus de peuples autochtones ici au Canada qui ne dénoncent pas, qui dénoncent pas les genocides qui se passent.
Puis de les supporter. Hélène Gabriel, merci. Niawen,
Niawen.
merci beaucoup d'avoir parlé avec nous. Et puis, on va continuer à vous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, pour ceux qui aimeraient s'impliquer à certaines manifestations en Palestine, il y en a une aussi qui va avoir lieu dimanche. Donc, il y a plusieurs actions possibles. Merci beaucoup encore. Kitchimiguach, Niawen, Hélène.
Alors, Léonie.
Merci, Sophie-Claude. Merci, Alexis. Bonne journée.
Au revoir.
Bye.